Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, nous allons parler de droit, du droit de l'Église en particulier, et vous allez nous parler d'un modèle d'EAP, d'équipe d'animation paroissiale. Alors d'ailleurs, est-ce on doit dire paroissiale ou pastorale? Vous allez nous dire ça aussi. Pourquoi parlons-nous cette semaine du droit de l'Église? Parce que en ce début de semaine, vous êtes allé à la rencontre des paroissiens de la paroisse du pays de Bagnères-de-Bigorre, un vaste territoire, pour leur annoncer qu'à partir de la rentrée prochaine, la paroisse fonctionnerait avec l'aide ou grâce au service d'une EAP, non plus selon le canon 519, mais selon le canon 517, paragraphe 2. Alors tout ça peut sembler un jargon un peu compliqué, mais cela dit, c'est quand même l'occasion de mettre notre nez dans ce droit de l'Église qui finalement a tout prévu. Peut-être pour commencer, il faut expliquer brièvement quel est le contexte de cette paroisse du pays de Bagnères, Monseigneur.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas complètement la configuration du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, c'est une des deux sous-préfectures du département. C'est une très très belle paroisse qui commence à quelques kilomètres au sud de Tarbes lorsque l'on prend la vallée de l'Adour, qu'on remonte la vallée de l'Adour en direction donc de Bagnères-de-Bigorre, puis de la Mongie, la station de ski de la Mongie, du col du Tourmalet. Voilà. Et donc, également, il y a un petit morceau de plateau au sud de Tournailles qui converge également vers Bagnères-de-Bigorre. Et voilà. Et puis, un petit bout de colline au sud de Tarbes, entre Tarbes et, on va dire, je ne sais pas trop, au centre d'un triangle Bagnères-Tarbes-Lourdes qu'on appelle
Le Haut
le
Marquisat.
Haut Marquisat. Voilà. Et donc, ce territoire, en effet, un petit peu important, qui correspond à l'ancienne doyenné de Bagnères et qui est devenu paroisse de Bagnères et qui s'appellera bientôt paroisse Notre-Dame du Haut-Adour. À son service, au niveau des prêtres, il y a le curé de Bagnères, qui est le père Antoine Mérillon, qui a 75 ans plus un an plus un an. J'expliquerai. Puis un prêtre de 80 ans à Campan, un autre de 80 ans, je vais vite, hein, à Pouzac, aux portes de Bagnères, et puis un autre de 80 ans qui vient le dimanche, de temps en temps un petit peu plus, aider en venant depuis Lourdes. Ça, c'est pour ce qui est des prêtres. Au niveau de la configuration de la paroisse, c'est vraiment, je le disais, une belle paroisse où il y a la vie consacrée, où il y a les établissements hospitaliers avec pas mal de personnes engagées dans les aumôneries, où il y a une école catholique et puis d'autres établissements scolaires. Il y a de la vie sur ce territoire avec un certain dynamisme économique, le thermalisme, les sports d'hiver, etc., etc. Bon. C'est une belle paroisse du diocèse, comme elles le sont toutes, mais avec une configuration plus facile peut-être que d'autres, en ce sens qu'il y a une certaine unité géographique et territoriale qui fait que depuis longtemps, les gens se connaissent et ont l'habitude d'être ensemble. Et voilà. Et donc, le père Mérillon, comme c'est prévu par le droit d'église, a remis sa charge, m'a remis sa charge il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Je lui ai demandé de poursuivre, je l'ai prolongé comme curé un an de plus, puis au mois de septembre, on a reconfiguré l'ensemble des paroisses du diocèse, je lui ai demandé encore une fois de continuer pour une année supplémentaire, et là maintenant, je suis obligé de lui permettre de se retirer vraiment, et il faut trouver un nouveau curé pour Bagnères. Alors depuis un an et demi, on réfléchit à qui on peut nommer comme curé à Bagnères. Et c'est une succession importante, une nomination importante que je ne veux pas prendre à la légère. J'en prends aucune à la légère, mais voilà, là particulièrement, vraiment. Et malheureusement, je n'aurai les moyens de donner un curé à Bagnères que dans un an seulement. Alors, le droit de l'Église est bien fait et il prévoit ce cas de figure où, je cite le canon 517, paragraphe 2, que vous avez évoqué, si à cause de la pénurie de prêtres, l'évêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encore à une communauté de personnes une participation à l'exercice de sa charge pastorale au service de la paroisse, il constituera un prêtre qui, muni des pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge. Bien.
Ça veut dire qu'on peut se passer de curé, monseigneur?
Alors, ça veut dire que, en attente de pouvoir nommer un curé, parce que justement, dans l'Église catholique, on ne peut pas se passer de curé. Et donc, en attente de nommer un curé, de pouvoir nommer un prêtre curé de cette paroisse, eh bien, je nomme une équipe de fidèles de la paroisse accompagnée d'un prêtre pour faire fonction de curé. C'est ce que prévoit donc le droit, exprimé dans ce canon 517, paragraphe 2, pour prendre en charge, participer à ma charge pastorale. En fait, le curé du diocèse, c'est moi. Le curé de toutes les paroisses, c'est l'évêque. Bien. Mais, de manière habituelle, il confie, il délègue à un prêtre nommé curé la part de responsabilité pastorale qui est la sienne propre, celle de l'évêque. Il la confie à un prêtre nommé curé. Et quand il ne peut pas le faire, pour une raison de pénurie par exemple, alors il peut confier cette participation à sa charge pastorale à un diacre ou à un laïc ou à une communauté de laïcs, à un groupe de laïcs. Et donc c'est cette EAP 517 paragraphe 2 que j'ai décidé de constituer au service de la paroisse de Bagnères pour un an.
Alors, vous parlez d'un prêtre modérateur qui accompagnera cette EAP que vous choisirez, dont vous choisirez les membres. Alors, pourquoi ce modérateur ne pourrait-il pas tout simplement être le curé?
Parce qu'il est déjà curé ailleurs et que donc il n'aura pas la disponibilité qui est requise de la part d'un pasteur d'une paroisse de plein exercice, mais il accompagnera l'équipe qui, elle, constituée de chrétiens locaux, sera sur place et aura cette veille pastorale ou cet accompagnement pastoral au quotidien avec un prêtre qui sera lui juridiquement équipé des facultés de curé pour pouvoir signer les actes qu'un curé doit signer ou des choses comme ça. Donc c'est ce prêtre qui aura ces facultés juridiques du curé, mais c'est eux qui en auront la faculté pastorale, on va dire, avec lui. Ensemble, l'EAP en question, qui sera nommé, portera, pour une année, portera donc la responsabilité pastorale de la paroisse. Voilà.
Ça veut dire que c'est ce modèle d'EAP, cette EAP, qui va, par exemple, décider des orientations pastorales pour la paroisse pour une année, et donc préparer le terrain pour le curé que vous nommerez dans un an.
Alors, voilà, elle ne va pas se lancer dans de très, très grandes considérations. Elle va animer pastoralement la paroisse pendant un an, mais elle va préparer l'arrivée du futur curé qui sera nommé dans une année.
C'est vous qui allez choisir les membres de cette EAP.
Alors voilà, elle est très très différente de l'autre EAP à laquelle nous sommes plus habitués, qui elle est une communauté de fidèles de la paroisse, choisie par le curé, et non pas par l'évêque, choisie par le curé pour être ses collaborateurs dans l'exercice de sa responsabilité pastorale à lui. Alors que là, c'est une équipe choisie par l'évêque pour faire fonction de curé, c'est-à-dire participer à la responsabilité pastorale qui est celle de l'évêque partout dans le diocèse.
Mais Monseigneur Mika, vous avez profité des visites pastorales pour rencontrer beaucoup de personnes. Vous connaissez probablement beaucoup de personnes dans ce territoire-là, mais est-ce que vous connaissez suffisamment les chrétiens qui pourraient s'engager dans cette EAP pour choisir ceux qui seront dans cette EAP? Comment voulez-vous les choisir et combien allez-vous en choisir?
Alors non, bien sûr, je suis bien incapable de choisir directement et instantanément les membres de cette EAP. Combien, je réponds à cette question parce que c'est la plus simple. Il me semble qu'une équipe de 5 personnes, à peu près, peut-être 6, bon, mais pas moins quand même, mais pas beaucoup plus non plus, convient pour le format, la souplesse, l'agilité qui est demandée, parce que ce sont des personnes qui devront se retrouver toutes les semaines pour porter toutes les questions que le secrétariat paroissial aura accueilli tout au long de la semaine, puisqu'il y a la secrétaire qui est là et qui accueillera les demandes des gens, etc., etc. Et elle en fera la liste, et toutes les semaines, l'EAP se retrouvera pour étudier toutes les demandes, toutes les questions, etc., et puis pouvoir y apporter les réponses qui devront y être apportées. Voilà. Donc, il faut que cette équipe puisse se retrouver régulièrement, soit sur place, connaisse la situation, connaisse les gens, etc., etc., pour pouvoir bien apprécier les affaires. Alors, comme moi, je ne connais pas tous les paroissiens aptes à être appelés, j'ai souhaité organiser donc lundi soir une rencontre d'un maximum de paroissiens de l'ensemble de la communauté paroissiale ou des communautés de cette paroisse qui composent cette paroisse. Et de fait, les gens ont répondu très très nombreux. Ils remplissaient bien l'église de Bagnères. Et je leur ai très longuement, pendant 1 heure, présenté le contexte, la différence entre cette EAP et puis l'EAP à laquelle ils ont l'habitude d'avoir affaire, qui est la petite équipe qui conseille le curé et qui partage sa responsabilité au quotidien. Là, c'est pas l'EAP qui partagera la responsabilité du curé, c'est l'EAP qui sera le curé, avec l'aide d'un prêtre modérateur. C'est vraiment un autre cas de figure. Et donc, j'ai expliqué aux personnes, aux paroissiens qui étaient là, que je souhaitais les consulter pour qu'ils me suggèrent eux-mêmes des noms de personnes qu'ils estiment aptes à être appelées par moi pour constituer cette EAP qui sera ou qui fera fonction de curé pendant 1 année. Et donc, je leur ai donné 3 semaines pour qu'ils me suggèrent des noms de personnes aptes, en disant bien qu'il ne s'agissait pas d'élire des représentants de telle ou telle réalité géographique de la paroisse, ou de telle ou telle génération, ou de telle ou telle sensibilité, mais vraiment de me proposer des noms de personnes aptes à partager ensemble la responsabilité pastorale.
Pour assurer ce service et cette responsabilité, pour être disponible, comme vous le dites, une fois par semaine, et donc avoir quand même le cœur et l'esprit vraiment disposés et engagés, ça veut dire exit les personnes qui travaillent, exit les jeunes. On aurait pu imaginer que, par exemple, des lycéens ou des étudiants soient membres de cette EAP. Là, avec l'engagement et le temps qu'il va falloir y passer, est-ce que ça va être compatible?
J'ai bien insisté pour dire qu'en effet, il fallait que ça puisse être compatible et que donc l'EAP en question, par son petit nombre, pourra beaucoup plus facilement trouver des créneaux qui permettent à des gens qui travaillent, à des jeunes, d'en être membres, parce qu'elle peut se réunir comme les membres d'un conseil municipal. Il n'y a pas que des retraités dans un conseil municipal. Et donc, et il se réunit souvent. Et donc, elle peut se réunir un soir dans la semaine ou le samedi matin, le plus souvent possible et de manière très, très régulière. Voilà. Donc, j'ai bien insisté pour dire, en effet, qu'il fallait que des gens de toute génération puissent être appelés à faire partie de cette EAP. Alors, peuvent faire partie de l'EAP, d'ailleurs, aussi bien un diacre permanent qu'une religieuse, qu'un laïc, homme ou femme de toute génération. Et il faut vraiment avoir l'esprit extrêmement libre et disponible pour appeler des personnes en fonction de leur personnalité perçue et aptitude à porter cette responsabilité avec les autres, et pas en ayant le souci de faire plaisir à telle personne ou surtout de faire plaisir à tel secteur de la paroisse ou que sais-je.
Vous avez dit que l'EAP sera donc le curé pour une année,
Avec le prêtre modérateur, oui.
avec le prêtre modérateur. Comment les paroissiens ont réagi? Parce que c'est pas rien quand même de dire que pour 1 an, la charge pastorale qui habituellement repose sur les épaules du curé est donnée à des laïcs, c'est quand même un changement. Comment les paroissiens qui vous ont écouté lundi soir ont-ils réagi? Et est-ce que ça ne veut pas dire que bah, quelque part l'heure est grave et que le modèle des paroisses et le fonctionnement de l'organisation de l'Église telle qu'on l'a toujours connue arrive à sa fin?
Alors, ils l'ont très bien accueilli, me semble-t-il, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir et les réactions que j'ai pu percevoir après ou qui me sont revenues après, me disent que le message est bien passé parce que d'abord, on en a fait un événement spirituel, on a commencé par un temps de prière, se remettre vraiment à l'esprit. Ensuite, ça s'inscrit dans une démarche plus longue, commencée dans le diocèse depuis le mois de mai 2023, de prise en compte de la mission propre de chacun, de chaque baptisé, et de l'articulation de cette responsabilité des baptisés avec le ministère des prêtres. Et précisément, j'ai expliqué que j'ai renoncé à des solutions qui auraient pu être des solutions immédiates de facilité, mais en considérant que nous avons besoin de prêtres et que nous avons, dans le diocèse, la chance d'avoir des séminaristes. Et donc, d'ici quelques années, l'assurance d'avoir de quelques prêtres jeunes, originaires du diocèse, qui viendront là et qui pourront être envoyés au service des paroisses. Et donc, je veux conserver pour ces futurs prêtres des paroisses où je pourrai les envoyer pour y être vicaire et curé, et donc ne pas confier les paroisses trop largement à des communautés religieuses ou à des prêtres venus d'ailleurs, parce que je veux pouvoir les confier à des prêtres du diocèse qui sont actuellement en formation, pour passer un cap en attendant. Ce n'est pas du tout une organisation qui est appelée à être une organisation habituelle. L'organisation habituelle, c'est l'EAP que nous connaissons et qui est constitué de fidèles de la communauté paroissiale et qui collabore avec le prêtre curé. C'est ça le AP normal. Cette AP-là, c'est une AP d'exception en attendant qu'un prêtre puisse être nommé curé. Et j'ai bon espoir de pouvoir le faire. Alors, j'ai la certitude de pouvoir le faire dans un an pour Bagnères, mais de manière habituelle de pouvoir le faire pour d'autres paroisses du diocèse. Et donc, ce schéma n'est pas du tout un schéma appelé à être le schéma normal, habituel, auquel il faudra bien qu'on s'habitue puisqu'on manque de prêtres. C'est pas du tout cela l'idée. Les gens l'ont bien compris et, me
Donc vous êtes
semble-t-il,
sûr
bien
d'avoir un
accueilli.
curé pour Bagnères dans un an?
Je suis sûr d'avoir un curé pour Bagnères dans un an.
Ma dernière question sur ce sujet-là, ancien Mika, est-ce que ça veut dire, on a bien compris que c'était pas une formule habituelle, que c'était une formule de transition, mais est-ce que quand même cette formule-là de AP 517 paragraphe 2 pourrait être choisie pour un autre territoire encore pour une période
Ah ben si la situation de Bagnères se présente dans une autre paroisse, eh bien bien sûr. Mais il faut qu'elle demeure une solution d'exception, mais qui est prévue par le droit, donc qui est tout à fait possible, et le droit de l'Église tel qu'il est formulé depuis 60 ans. Donc il n'y a pas de souci pour ça.
En tous les cas, c'est la première fois, ou en tous les cas, ça n'arrive pas souvent dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Pour vous, c'est quoi les facteurs, les éléments qui pourraient être garants du bon fonctionnement pour que ça marche, pour que cette formule-là, elle réussisse et qu'elle porte des fruits et qu'elle prépare bien le terrain pour le curé qui arrivera dans un an?
Eh bien, précisément, la vigilance du prêtre modérateur qui est là pour ça. Il est vraiment là pour accompagner l'équipe, arbitrer, veiller à ce que les choses se passent comme elles sont prévues, et par le droit, mais aussi théologiquement, spirituellement. Donc, c'est sa mission, hein, précisément, de modérateur de la charge pastorale. Et donc, c'est à lui qu'il appartient de veiller à cela. Et précisément, pour que cela soit fait avec une certaine solennité, je dirais, j'ai nommé le vicaire général pour être le prêtre modérateur de cette charge, en le déchargeant des autres fonctions du vicaire général, que je vais confier à un autre prêtre, que je vais appeler à être deuxième vicaire général du diocèse. Mais le père Jamais, pour ce qui nous concerne, vicaire général, sera le modérateur de cette charge, tout en restant curé de sa
Curé de
paroisse
Lourdes.
de Lourdes. Voilà.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce temps de formation, on peut dire. En tous les cas, c'était voilà une séance sur le droit de l'Église. C'était très intéressant. Je crois que c'était la première fois qu'on abordait ces questions-là. Mais donc, voilà, c'est dire aussi que eh bien, ce droit de l'Église, il ne concerne pas qu'une poignée de théologiens ou d'évêques voilà, qu'il peut intéresser, en tous les cas, qu'il doit intéresser même les petits paroissiens que nous sommes.
Oh ben bien sûr, et puis j'ai donné le texte à tous les fidèles qui étaient là
Ah oui.
et distribué à tout le monde. Et ben voilà, les gens sont tout à fait en maturité chrétienne et spirituelle pour pouvoir accueillir les choses, les comprendre. Et vraiment, j'ai été très très impressionné par la qualité d'écoute et d'accueil de cette disposition. Il est bien compris par tous, me semble-t-il, qu'il ne s'agit pas de raisonner en termes de vase communicant, il n'y a plus de prêtres, il faut appeler des laïcs, et puis le jour où il y a de nouveau des prêtres, on n'a plus besoin des laïcs. C'est pas du tout en ces termes que les choses se formulent et se conçoivent, mais justement c'est en complémentarité, aucun ne pouvant se passer de personne. Et c'est ça l'Église catholique, et c'est très heureux ainsi. Et voilà, et le droit, dans des situations exceptionnelles, prévoit des dispositions exceptionnelles. C'est le cas de figure pour un an à Bagnères-de-Bigorre, et les gens l'ont parfaitement bien compris et accueilli, me semble-t-il.
Voilà, et pour que ça marche et pour que ça roule, eh bien, on peut compter sur le concours de l'Esprit Saint que nous allons donc recevoir, du moins je l'espère, en abondance ce week-end, puisque c'est la Pentecôte et vous serez samedi soir à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes pour les vigiles de Pentecôte et les confirmations des adultes qui sont nombreux encore cette année à recevoir ce sacrement. C'est à 20h30, donc en la cathédrale.
Merci beaucoup, Anne-Rose, et puis
Merci,
bonne
Monseigneur.
semaine à tous nos auditeurs.